Ça tombe bien parce que hier j'ai reçu un petit livre d'un prêtre du diocèse de Valence et qui a comme titre « Je fais le plus beau métier du monde ». Bah, il a raison. Alors je vous dis à la conclusion comme c'est beau. Malgré les difficultés et les peines rencontrées, les fatigues, je suis très heureux d'être prêtre. Si je devais choisir à nouveau, je recommencerais sans hésiter une seconde, avec encore plus d'élan et d'envie. Je fais le plus beau métier du monde. Combien de personnes n'aiment pas leur métier ou leur activité professionnelle? Eh bien, ce n'est pas mon cas. Je suis passionné par ce que je fais, par ce que je vis et par tout ce que je rencontre. Mais plus précisément, par ce que Dieu fait par moi, en moi, avec moi. Je suis passionné par ce que Dieu accomplit dans le cœur des hommes. C'est beau. Ce que Dieu accomplit chez les hommes, il l'accomplit par celui par qui tout a été fait, depuis la création du monde jusqu'au salut, celui à propos duquel il nous dit « En lui j'ai mis tout mon amour, tout mon amour, et c'est lui justement qu'on appelle le grand prêtre. » Et donc quand nous recevons l'ordination sacerdotale, nous sommes identifiés à lui, nous disons ses paroles à lui, nous accomplissons son action à lui, et nous tous, de par notre baptême, quand nous sommes baptisés, nous sommes les membres de son corps, et nous accomplissons avec tous les autres membres de son corps et de l'Église, cette action sacerdotale. Voilà. Alors c'est ça dont je dois vous parler aujourd'hui. C'est quoi l'action sacerdotale de l'Église? C'est quoi l'action sacerdotale d'un prêtre à l'intérieur de notre sacerdoce ministériel ou baptismal? Le pape Jean-Paul II a voulu que cette journée du Sacré-Cœur soit aussi une journée de prière pour la sanctification des prêtres. Voilà. Et le titre qu'on m'a donné, c'était, parce que ici c'est le sanctuaire du Sacré-Cœur, selon le cœur de Jésus. Un petit truc, tout à l'heure dans l'évangile, il va y avoir Jésus qui nous parle de son cœur. Apprenez de moi, mettez-vous à mon école pour être doux et humble de cœur. C'est un passage que tout le monde connaît dans l'évangile. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est la seule fois de tout l'évangile où on parle du cœur de Jésus. Par exemple, quand on dit qu'on lui a transpercé le cœur, non, l'évangile dit qu'on l'a transpercé, piqué son côté. Mais, évidemment, c'est un passage très 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 important, celui de l'évangile d'aujourd'hui, parce qu'on a la mention directe de son cœur. Donc la question que moi prêtre, que moi baptisé, je peux poser à Jésus, c'est si tu me dévoilais un peu les secrets de ton cœur. Si tu m'apprenais un peu comment c'est fait là-dedans pour que ce soit un petit peu mieux fait, refait, transformé en moi. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que d'abord le sacerdoce des prêtres et de tous les fidèles, c'est au fond l'accomplissement d'une promesse de Jésus. Vous savez, quand Jésus s'en va, les apôtres sont pas contents. Alors il leur dit, tu devrais restaurer la royauté en Israël, vous imaginez, comme Jésus s'en fiche. Et il leur dit, je suis pas venu pour ça, pour faire de la politique et tout et tout. Il vaut mieux que pour vous que je parte. Ben oui, ils pensent le contraire. Il vaut mieux pour vous que je parte et je m'en irai vous préparer une place. Et eux, ils voudraient, parce qu'ils sont les copains de celui qui a le pouvoir, que maintenant ils chassent les Romains, puisqu'il est bien plus fort que Ponce Pilate et Hérode. Et qu'il restaure la royauté en Israël. Vous, c'est pas votre problème. Ça, ce sont des choses qui appartiennent au Père, l'heure de Dieu. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, et vous vous serez mes témoins. Autrement dit, c'est la mission qu'il nous a donnée, que nous avons sentie d'une manière extrêmement forte et particulière dans notre sacrement de la confirmation. Ces petites lignes-là, c'est la plus belle catéchèse du monde à propos de la confirmation. Le meilleur catéchiste du monde, c'est Jésus. Et la dernière phrase de Jésus sur terre, la dernière phrase de quelqu'un que vous aimez, vous l'avez retenue, hein, avant qu'il ne parte. La dernière phrase de Jésus sur terre, c'est le sacrement de la confirmation. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Autrement dit, vous allez poursuivre mon action, vous allez témoigner de mon action. Ouais. Je vous confie cela et je vous donnerai la force et les moyens pour le faire et pour l'accomplir. Autrement dit, quand Jésus s'en va, les apôtres rouspètent. Mais Jésus leur explique que quand il s'en va, c'est pas un abandon. Si je m'en vais, je vous abandonne pas. Je m'en vais, mais je vous fais cette promesse. C'est la promesse qui est à la fin de l'évangile de Saint Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Beaucoup de gens qui demandent pourquoi Jésus il souffre de son absence, de son manque d'intervention. Il manque de foi dans cette promesse. Or ça, pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire. Quand j'ordonne un prêtre ou quand je vois notre vie sacerdotale, je me dis au fond, ça fait 2000 ans qu'il a fait cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il la tient. Et c'est une promesse qu'il tiendra jusqu'à son retour. Vous avez des oiseaux de malheur, vous savez, qui vous disent les vocations baissent, bientôt il n'y aura plus de vocation et je sais pas quoi, etc. Un peu comme le bon vieux Zacharie qu'on voit dans la fête de demain à Saint-Jean-Baptiste, il dit « Mais ma femme, elle est vieille, ça m'étonnerait qu'on réussisse encore à avoir des enfants, patati patata, etc. etc. » Il y a encore des vieux Zacharie dans l'église catholique aujourd'hui qui croient que l'église est un peu trop vieille pour faire des prêtres, etc. etc. Bah, qui se convertissent et puis qui voient que tout d'un coup, il y en a un qui arrive. Ce qui est très étonnant, c'est ce mot de promesse. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le mot de la promesse, c'est un mot qui vient très souvent dans l'évangile. Et un truc bizarre, c'est que évangile, c'est un mot grec, mais il est quasiment devenu français, tout le monde le connaît. Et le mot grec qui veut dire promesse, peut-être que personne ne sait lequel c'est. En grec, le mot promesse, c'est la même chose qu'évangile, sauf qu'à la place du V, vous mettez un P. Épangile. Je suis très en colère contre les traducteurs, parce qu'ils ne nous font pas entendre ça. Et ce qu'il faudrait entendre, c'est que la bonne nouvelle que j'ai à dire au monde, c'est précisément que Jésus tient ses promesses. Un petit chant, vous savez qu'on chante en Noël, depuis plus de 4000 ans, nous le promettez-les, promettez les prophètes. En fait, c'est une promesse qui avait été faite depuis longtemps, la venue du Messie, et cette promesse s'est accomplie. C'est ça que j'ai à vous dire. Et lui, il y a plusieurs mots qu'il faudrait regarder de près. Il y en a un, c'est non, il y a évangile, épangile, anangile, il y en a plusieurs. Et c'est dommage qu'on les entende pas bien parce que c'est la même famille d'un même mot qui approfondit, qui concentre encore davantage le regard sur Jésus et qui nous fait comprendre des choses essentielles. Alors, la première, c'est celle-ci. C'est que ce que nous avons à dire aux gens comme bonne nouvelle, c'est que la promesse inscrite dans leur cœur, eh ben, elle s'accomplit. Vous voyez, même quelqu'un qui n'aime pas le christianisme, qui dit qu'il n'est pas croyant, parce que avec tout ce qui se passe dans le monde et toutes les souffrances qu'il a vécues et endurées, on le comprend bien sûr. Au fond de lui-même, il y a une espèce de promesse inscrite là-bas par derrière, qui lui fait dire que c'est pas juste, que c'est pas normal, qu'au lieu de tant de violence, il faudrait qu'il y ait de l'amour qui circule. Il a raison. Cette promesse est inscrite par Dieu dans le cœur de tous ses enfants. Et il faut lui dire, ben ça c'est une promesse, et ben tu la vois pas. Et c'est triste effectivement qu'on voit tant de souffrances, mais si tu laisses Jésus entrer, alors il va l'accomplir. C'est très important de comprendre que l'évangile, c'est l'accomplissement de l'épangile. Vous voyez, l'évangile, c'est l'accomplissement de la promesse. Et donc, toutes les personnes, même les plus rebelles, en fait, on a à leur montrer que ce que Jésus a fait, ce que Jésus a promis, il va tenir sa promesse et on en est sûr. C'est quand même assez surprenant qu'aujourd'hui, on est le 23 juin 2017, c'est-à-dire ça fait assez longtemps qu'il a dit ça, hein. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout à l'heure, on va dire à la messe ici, et on va dire « Ceci est mon corps livré pour vous ». Et on va être un certain nombre de prêtres à concélébrer. Et vous, quand vous entendrez « Ceci est mon corps », vous entendrez Jésus présent qui vous parle à vous aujourd'hui et donc qui tient sa promesse « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et moi, de là où je suis, je vois des prêtres qui confessent. Et quand la confession du fidèle sera finie et qu'ils donneront l'absolution, ils diront « Je te pardonne tous tes péchés ». Et qui c'est qui va dire « Je » ben, le prêtre, oui, parce que c'est vraiment lui qui doit savoir s'il pardonne ses péchés qui ont été confessés. Et en fait, ce « Je », c'est Jésus qui accomplit sa promesse. Ça, c'est proprement étonnant, extraordinaire, merveilleux de voir cela. Donc, le cœur de Jésus, c'est que c'est quelqu'un qui tient sa promesse. Et donc, être un prêtre selon le cœur de Jésus dans son sacerdoce ministériel, ou un chrétien dans son sacerdoce baptismal, c'est de se dire, eh ben moi, j'ai une promesse à tenir. Il a dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc moi qui suis un membre de son corps, parce que je suis baptisé et confirmé, si je ne suis pas une servante ou un serviteur, je ne tiens pas sa promesse, donc je suis un menteur. Donc c'est essentiel, majeur, c'est vraiment de comprendre que être selon le cœur de Jésus, c'est faire ce qu'il a fait, entendre sa promesse, et aujourd'hui, la tenir pour nous. Alors après, on va donc essayer de voir comment est-ce que cette promesse, on va pouvoir la tenir. Donc là, nous avons beaucoup à apprendre de lui. Et c'est pourquoi il dit dans l'Évangile, « Apprenez, mettez-vous à mon école. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Donc ça, ce sont des vertus spirituelles. Donc il faut que je demande au Seigneur qu'il me montre sa douceur. Il en a parlé dès qu'il a ouvert la bouche, comme vous savez, puisque quelques chapitres plus haut dans l'évangile de Saint Matthieu, il a dit « Heureux les doux, ils hériteront la terre promise ». Et puis, donc on voit toute la douceur qu'il y a. L'humilité, si on regarde bien ce mot-là dans la Bible, c'est au fond, c'est presque comme abaisser. À l'intérieur de la vie, il y a des choses qui ont été humiliées ou abaissées. Et c'est exactement comme lui. Il s'humilia, il s'abaissa, et il s'humilia plus encore. Ouais. C'est pour ça que Dieu l'a exalté, parce que il a pris la condition du serviteur et de l'esclave, et il s'est fait le petit et le serviteur. Ce que les autres n'ont pas tellement admis d'ailleurs. Parce que quand il vient au pied de Pierre pour lui laver les pieds, Pierre dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds. » Et Jésus lui dit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. » Alors Pierre dit « Ah bon d'accord, dans ce cas-là, les mains, la tête, tout ça, etc. » Et quand Jésus se relève, il tire une leçon qui est très belle et il dit « Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous avez raison. » Car je le suis. Donc si moi le Maître et le Seigneur, moi le Maître et le Seigneur, c'est la beauté, la splendeur, la grandeur de votre baptême, de votre confirmation, de votre ordination. Si moi le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous aussi vous fassiez de même. Donc, quelle est sa mission à lui quand il va arriver sur la terre ? D'abord, c'est de nous donner cette parole, parce que lui, il est une parole qui n'est pas seulement un enseignement. Hein. Il est une parole vivante, une parole créatrice, une parole recréatrice, une parole qui est active, une parole qui nous transforme. Donc quand on entend la parole, il faut l'entendre depuis la première page de la Bible, jusqu'à celle qu'il nous dira le dernier jour, quand il nous dira « Venez les bénis de mon Père ». Entrez dans cette maison, une place a été préparée pour vous. Et cette parole, j'espère qu'elle agit en chacun de nous tous les jours dans la prière. c'est une parole qui m'éclaire, c'est une parole qui me transforme, c'est une parole qui est en train de me faire et de me refaire, de me convertir. C'est une parole qui est vraiment active, quoi. En 2008, j'ai participé au synode autour du pape Benoît XVI sur la parole de Dieu. Et je me suis aperçu que l'un des deux versets de la Bible qui était le plus cité dans un synode sur la parole de Dieu, c'était celui-là de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole, elle est active, elle est agissante, elle est tranchante, elle est extrêmement vivante. Autrement dit, ce qui est très important, c'est que par sa parole, il puisse continuer à me fabriquer, vous voyez. Parce qu'en fait, moi je m'appelle Philippe Barbarin, mais je suis très loin d'être Philippe Barbarin, tel qu'il était pensé dans le cœur de Dieu. Et il serait temps que je me dépêche pour devenir un peu, pour devenir enfin, pour devenir vraiment celui qu'il voudrait que je sois. Je vais vous citer et vous expliquer un verset de l'Évangile avec lequel vous êtes, contre lequel vous êtes tous en colère. Et un verset de l'Évangile que les chrétiens n'aiment pas. C'est celui où Jésus dit, à la fin d'une longue tartine de 6 exemples, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Les 10 commandements, déjà c'est pas sûr qu'on les applique à la perfection, et on a l'impression que lui il en rajoute. Eh bien moi je vous dis, et encore, les gens sont complètement découragés, et à la fin, il dit, mais j'ai déjà pas bien appliqué les 10 commandements. Ici, en plus, il nous rajoute, donc je suis foutu et je suis perdu. Surtout que ça se termine par cette conclusion, vous vous en rappelez bien, où il dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Alors il dit, ben, il n'y a pas de risque, bon, j'en ai assez et j'arriverai jamais à être chrétien, puisqu'il dit qu'il faut être parfait, et ben ça me décourage. Donc, plutôt de dire que Jésus a tort quand il parle, il vaut mieux se dire c'est peut-être moi qui ai mal compris, voilà. Et au lieu d'être en colère contre un passage d'évangile, il vaut mieux aller voir quelqu'un et lui dire vous pourriez pas m'expliquer parce que là c'est un passage d'évangile que j'ai du mal à l'avaler, voilà. Et donc on l'explique un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, faut regarder ce mot-là de près, même dans le grec. D'ailleurs, c'est tout à fait clair. Il dit le travail n'est pas fini. Ah ben ça c'est vrai, ouais. J'ai pas encore fini mon travail en toi. Bah oui. Donc pour que moi je devienne Philippe Barbarin et que vous deveniez chacun de ceux que vous devez être, tel qu'il vous a aimé, tel qu'il vous a créé, vous savez, vous devinez, vous vous rendez compte de tout le travail qu'il a encore à faire en vous. Oui, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai créé. D'ailleurs, toi, t'as tout défait avec tes péchés, t'as vu. Et quand il nous pardonne, tout ce que il a fait que j'ai défait, il le refait à neuf. Le pardon, c'est une merveille, parce que ce que j'ai défait, ce que j'ai abîmé, lui, il le refait à neuf. Donc nous aimons bien le sacrement du pardon, parce qu'on a l'impression que nous sommes rendus à nous-mêmes, que nous redevenons nous-mêmes, que quand nous avons fait le contraire de ce que nous étions, hop, je ne sais pas comment vous êtes, vous, quand vous sortez de vous confesser, mais on voit quand je me suis confessé et que je sors, j'ai l'impression que je suis en paix. Les petits-enfants, ils pédalent trois fois plus vite sur leur petit vélo quand ils rentrent à la maison. Et nous, les adultes, on a l'impression qu'on est remis bien à notre place. On est pacifié intérieurement. Alors, à ce moment-là, il faut faire attention. Parce que souvent, le chrétien, il est content, il s'est confessé, il est en règle, maintenant, il est bien comme un bon chrétien. Et malheureusement, il s'arrête là. Or, Jésus dit... Quand je t'ai refait à neuf, j'ai pas fini mon travail. Je t'ai fait et je viens de te refaire, mais j'ai encore beaucoup de travail en toi pour te parfaire. Soyez parfait, ça veut dire vous êtes pas fini. Et j'ai encore beaucoup de travail à faire avec ma parole, avec mon amour, avec ma grâce, pour qu'on arrive à la fin de ce travail. Et alors là, tout le monde est réconcilié en disant, bah oui. C'est vrai que Dieu, il a encore beaucoup de travail à faire en moi pour finir son boulot. Et parfait, c'est ça que ça veut dire. Parfait, ça ne veut pas dire sans faute. Ça ne veut pas dire celui qui a tout réussi et qui n'a rien fait de mal. Bien sûr que non, parce qu'on est tous des pauvres pécheurs. Ça veut dire, s'il vous plaît, laissez-moi agir en vous pour que je vous donne un cœur qui soit semblable au mien et pour que vous aussi, vous soyez vraiment un baptisé, un prêtre, un diacre, un évêque, un je sais pas quoi, un confirmé et que vous puissiez poursuivre l'œuvre de Jésus. À ce moment-là, vous ouvrez les portes Et vous dites, oui, au Seigneur, je suis conscient que tu as encore beaucoup de travail à faire en moi. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle il faut prier tous les jours avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est active. Et quand vous lisez l'évangile, et quand les phrases d'évangile, vous les apprenez par cœur, et qu'elles sont devenues un petit peu votre chair et votre sang et votre pensée, vos yeux et votre regard et votre main, etc., etc., alors ça change quelque chose en nous. La parole de Dieu est créatrice. C'est vrai depuis la première page de la Bible. Alors Dieu dit, il y a eu le soleil, les étoiles, etc., etc. Mais c'est vrai encore aujourd'hui. La parole de Dieu aujourd'hui, quand vous l'écoutez, quand elle devient votre chair et votre sang, alors à ce moment-là, elle vous crée, elle vous recrée, elle vous transforme, elle vous fait, elle vous refait, elle vous parfait, elle vous parachève, elle poursuit en œuvre ce travail-là. Je vais aller un peu plus loin. On dit de Jésus qu'il est le Verbe fait chair, le Verbe incarné. Et moi, je pense qu'il faut suivre ce chemin-là aussi. Et ce Verbe et cette parole de Dieu, il serait temps qu'elle devienne ma chair et mon sang. Ouais. Et qu'à l'intérieur de moi, elle habite et elle vibre, etc. Et qu'elle soit à l'intérieur de mon esprit et de mon cœur, ce qui fait qu'après, elle sortirait spontanément de mes lèvres. Il y a un passage du prophète Isaïe, très beau. À mon avis, il est quasiment cité dans un passage d'évangile, je vais vous dire après. Chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille. Un jour, engueulez votre oreille comme ça. Et lui dit, espèce d'oreille endormie! C'est vrai, des fois on a une oreille endormie. Chaque matin, le Seigneur, Isaïe, je crois que c'est Isaïe, chapitre 50, verset 4. Chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille. Donc la parole de Dieu rentre. Elle fait son voyage à l'intérieur de mon cœur et de mon intelligence et de tout mon être. Et alors il dit, et l'après-midi, elle ressort sur mes lèvres comme une parole de réconfort pour les autres. C'est très beau. Le temps que la parole de Dieu vienne en moi, m'imprègne, s'incarne en moi et devienne, et qu'elle me transforme, et alors après, moi, je deviendrai une parole de Dieu vivante pour les autres aussi. Et donc, cette action de Jésus va se poursuivre aujourd'hui aussi. L'action sacerdotale de celui qui est le seul grand prêtre, il m'a dit, c'est vous qui serez mes témoins, c'est à vous de le faire aujourd'hui. Donc, il faut se mettre dans les conditions pour le faire. J'en veux une preuve, non pas dans nos vies, j'espère que c'est vrai dans nos vies aussi, mais dans la vie de Jésus, par un petit passage de l'évangile de Saint Marc, chapitre 1er, verset 35 et suivant, où il dit... Bon, il avait une veille, la veille au soir, ça avait été fou, quoi, parce que il avait prêché à la synagogue, il avait chassé des démons, il avait guéri des lépreux, après il avait guéri la belle-mère de Pierre, il avait mangé avec un lance-pierre à toute vitesse, tous les malades et tous les possédés du démon étaient arrivés du village de Capharnaüm devant la maison, il avait dormi, qu'est-ce qu'il avait dormi, hein ? Parce qu'il avait dû se coucher tard, et en tout cas on nous dit le lendemain, bien avant le jour, il s'était levé, et il était parti dans un endroit désert, et là il priait. Lui, Jésus, lui, il laissait la parole de Dieu venir en lui pour que Dieu, son Père, soit toujours en train de l'engendrer, éternellement engendré, de le fabriquer, de le faire et de le parfaire. Tout le travail de Dieu en lui se fait chaque matin. Et après, les apôtres viennent lui taper sur l'épaule en disant « Bah non, où est-ce que tu es? Tout le monde te cherche !» Et Jésus, très gentil, dit, bah oui, oui, allons dans les villages voisins, c'est pour ça que je suis sorti. Et il s'en va avec eux prêcher la parole. Donc nous voyons bien que pour nous aussi, une condition essentielle pour vivre notre sacerdoce, là aussi que nous soyons prêtres ou que nous soyons baptisés, hein, c'est que cette parole de Dieu vienne en nous chaque matin, puisse continuer son travail, et puis, après, ce sera à nous de le poursuivre auprès des autres. Pour cela, pour que cette action puisse bien s'accomplir, nous avons besoin d'être conseillés par derrière, d'être bien accompagnés, d'avoir quelqu'un à côté de nous qui nous souffle à l'oreille ce qu'on doit dire, etc. Eh bien, ça, c'est une manière de vous présenter un mot de l'évangile que vous connaissez bien, qui est le mot paraclet. Un paraclet, c'est un mot un peu technique. Des fois, on l'appelle le consolateur, des fois, on l'appelle l'avocat, des fois, on l'appelle un médiateur, un conseiller, un réconfort, un soutien, une défense, mon défenseur. En fait, c'est un mot très beau. Para, ça veut dire « viens à côté de moi », et clé, ça veut dire « je t'appelle ». Tout seul, je ne vais pas m'en sortir. Tout seul, je ne vais pas réussir à être un chrétien. Donc, je l'appelle, c'est exactement le sens du mot français « advocatus », un avocat. Avocat, je l'appelle, et ad, je l'appelle à côté de moi. J'ai besoin de vous pour me défendre. Pourquoi vous avez besoin d'un paraclet ou d'un avocat à côté de vous? Eh bien, d'abord, au dernier jour, quand on arrivera là-haut, on ne sera pas mécontent d'être défendu par quelqu'un qui nous défendra très bien. Ça, c'est vrai. C'est son rôle. Ouais. Donc Jésus, il est notre paraclet, notre avocat. Et même, d'ailleurs, quand il s'en va, il dit « je vais vous envoyer un autre paraclet ». C'est pour ça qu'on appelle comme ça le Saint-Esprit aussi. Et donc, j'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Jésus a dit, il va te faire comprendre tout ce que Jésus t'a dit. Il va te permettre de ressembler à Jésus le grand prêtre. Il va te permettre d'avoir un cœur qui ressemble au sien. Je vais t'expliquer. Jésus nous a dit, le Saint-Esprit, il prendra de mon bien et il vous conduira pas à pas vers la vérité tout entière. C'est lui, le Saint-Esprit, qui petit pas par petit pas va faire de vous des chrétiens. Il a encore beaucoup de travail à faire en nous. Donc ce paraclet à côté de nous, il va nous défendre au dernier jour quand on arrivera auprès de Dieu, mais aujourd'hui, maintenant, il défend la cause de Dieu en nous. Et il nous dit, bah alors, tu dis que t'es prêtre, et tu dis que t'es chrétien, bah regarde comment s'est déroulée ta journée. Enfin c'est lamentable, 3 heures de télévision et 3 minutes de prière, tu trouves ça normal? Donc il nous secoue, et c'est vrai qu'on en a besoin. Et il défend la cause de Dieu à l'intérieur de nos vies. Voilà. Et il dit, c'est pas possible. Tout le monde a une Bible dans sa maison, personne ne l'ouvre. Vous savez bien ça. C'est un vrai problème. Comment ça se fait? On dit que c'est la parole de Dieu. Mais en fait, on l'ouvre pas beaucoup. Alors on ouvre, prions en église ou magnificat, bien sûr. On regarde le petit tronçon de l'évangile d'aujourd'hui. Qui c'est qui ouvre sa Bible? C'est pas fou, quoi. Moi, j'étais dans une famille nombreuse. Et on partageait notre chambre à plusieurs frères. Et un jour, j'avais un de mes frères. Il me pardonnera s'il entend ça. Il était étudiant en médecine. Et il avait sur sa table de nuit sa Bible. Et entre la pochette de la Bible et sa Bible, j'ai glissé perfidement un petit carton. Et je lui ai mis, « Mon cher Yves, quand tu trouveras ce papier, fais-moi signe. » Et j'ai mis la date. Mais lui, il était sûr qu'il était un bon catholique parce que la Bible était son livre de chevet. Il l'avait sur sa table de nuit. Et il l'a ouverte 9 mois plus tard. Et il m'a dit, ben, tu m'as rendu un service formidable. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que je ne la lisais jamais. Voilà. Et bien c'est vrai, je vous assure que c'est un bon catholique. Hein. Non, il n'y a pas de problème, un très bon catholique. Sauf que voilà, on finit par oublier l'essentiel. Et on se contente de petits machins ou de petits trucs. Et cette parole qui est vraiment une parole vivante, elle n'a pas pris toute sa place. Or, le Concile Vatican II qui cite l'Épître aux Thessaloniciens, un passage que j'aime énormément, c'est saint Paul qui écrit aux Thessaloniciens en leur disant « Il faut que la parole de Dieu poursuive sa course !» Alors on a l'impression qu'on a des jambes là. Et que nous sommes la parole de Dieu, et qu'aujourd'hui elle doit courir dans le monde de 2017, et c'est vrai, j'aime bien ça, vous voyez. Il faut que la parole de Dieu poursuive sa course. On le voit, tous ceux qui sont partis évangéliser, je sais pas quoi moi, l'Océanie, l'Asie, l'Afrique, dans les siècles antérieurs, mais nous voyons bien qu'aujourd'hui, il y a des quantités de gens qui connaissent rien à la parole de Dieu et au message du Christ, et il faut qu'aujourd'hui la parole de Dieu poursuive sa course, ça veut dire, mesdames, messieurs, qu'il faut que vous pendiez vos jambes à votre cou, quoi. Et que, puisque vous êtes une parole vivante, vous alliez donner et offrir cette parole aux autres. Vous comprenez pourquoi on a besoin d'un paraclet? C'est-à-dire quelqu'un qui est à côté de nous. C'est très beau cette mission. À la fois, il me console et il me secoue. Vous voyez, le Saint-Esprit, d'un temps, il m'engueule un peu, il me secoue, il me réveille. Et à d'autres moments, il me pacifie, il me conseille, il m'assagit, il m'adoucit, il me remet dans la paix, dans la sérénité, parce que je suis troublé, parce que j'en ai besoin. Il est merveilleux, c'est un merveilleux conseiller, nous avons besoin de lui. Quel est l'objectif de tout ce travail de Dieu en nous pour que nous soyons le corps du Christ qui va continuer? Eh bien, c'est précisément que l'action sacerdotale de Dieu se répande à l'intérieur du monde. Alors, il n'y a qu'un seul grand prêtre, c'est Jésus, et sur lui, la parole du Père se fait entendre, et il dit, oh, c'est les passages les plus précieux de l'Évangile, les phrases de Jésus, c'est toujours précieux, mais les paroles du Père qui tombent sur Jésus, il n'y en a pas beaucoup, au baptême, à la transfiguration, c'est les passages d'Évangile les plus précieux de tous, vous êtes d'accord avec moi. Il nous montre Jésus au baptême, on appelle la chrismation, ou à la transfiguration, il dit, en lui, j'ai mis tout mon amour. D'ailleurs, les Bibles ne savent jamais comment traduire ce mot. C'est un mot merveilleux, qu'on pourrait traduire par toute ma miséricorde, toute ma promesse d'amour. En lui, j'ai mis tout ce que j'ai à vous donner, à vous offrir. Un peu comme Saint Paul quand il écarquille les yeux devant Jésus et il dit en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. C'est-à-dire toute la bonté d'un Dieu Père et Créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible se trouve dans le corps de Jésus. Corporellement la plénitude de la divinité. Et donc la voix du Père cautionne cela, fonde tout cela quand il nous dit mon dessein d'amour, mon projet d'amour sur le monde entier. Eh bien, j'ai tout mis en Jésus. Par conséquent, c'est ça qui est la source pour vous. S'il vous plaît, allez auprès de Jésus. Buvez à cette source. Allez vous désaltérer à cette source. C'est pour ça qu'il dit, allez manger l'Eucharistie, allez vous confesser, allez à la source de votre baptême, allez à la source de cette parole, laissez-vous abreuver, laissez-vous guérir, laissez-vous désaltérer, laissez-vous renouveler par cette parole. Alors, vous aussi, vous pourrez distribuer la miséricorde partout. Donc, ce qui me paraît vraiment très important, c'est que cet amour soit venu complètement en nous, tout le dessein d'amour de Dieu sur nous, pour qu'ensuite nous passions notre temps le distribuer, à le partager, à le répandre. Vous connaissez cette phrase très célèbre du curé d'Ars et qui en fait n'est pas si facile à comprendre et que aujourd'hui devant vous je voudrais étendre non pas seulement aux prêtres mais à tous les baptisés. Le curé d'Ars dit le sacerdoce c'est l'amour du cœur de Jésus. C'est une phrase très connue. Seulement elle a deux interprétations possibles. Avec un génitif subjectif et un génitif objectif. Mais je ne vais pas vous faire de la grammaire, je vais expliquer. Donc, le sacerdoce, c'est donc tout l'amour de Dieu qui est dans la personne de Jésus. Bon, ça c'est dit dans l'Évangile. Tout Dieu est là présent en lui, c'est pour ça qu'on adore le Saint-Sacrement du corps du Christ, et que quand on est devant Jésus, on sait qu'on est devant Dieu. Et là, à l'intérieur de lui, il y a la totalité de l'amour qui va pardonner les péchés du monde entier, répandre la grâce de Dieu dans tous les continents, tous les siècles du monde entier. Et le curé d'Ars, quand il est un prêtre, il dit, au fait, ça se définit comment un prêtre ? C'est quoi être un prêtre? Et comme, depuis le Concile Vatican II, on insiste beaucoup sur notre sacerdoce baptismal, vous les baptisez. C'est quoi pour vous votre sacerdoce baptismal? Et alors là, je voudrais appliquer la phrase du curé d'Ars. Ben, vous voyez, si vous êtes vraiment des baptisés, des confirmés, si vous êtes vraiment des prêtres, vous le voyez à la façon dont vous aimez le corps de Jésus. L'amour du cœur de Jésus. Jésus, est-ce que tu l'aimes vraiment? Les gens, ils répondent tout de suite, oui, oui, oui. Bon, je dis, c'est certainement pas la réponse qu'il faut vous donner, voyez. Le minimum, c'est de dire, bah, pas assez, voilà. C'est vrai que je l'aime pas assez. Je pourrais l'aimer un peu plus ou davantage. Je voudrais pour cela vous expliquer le passage assez cuisant que vit notre cher Saint-Pierre. D'accord, il est médiocre. Enfin, quand même, c'est un saint. Et puis, c'est un apôtre. Puis, il a fait du bon boulot. En tout cas, on n'est pas meilleur que lui, quoi. Il a des aspects médiocres, mais moi aussi plein. Et il a des aspects merveilleux, droits et directs, etc. Et Jésus lui pose la question la plus épouvantable qui soit. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Vous savez qui c'est qui était à côté de lui? C'était le disciple que Jésus aimait, qui avait été fidèle jusqu'à la croix, qui était à côté de lui le jeudi saint, et qui l'avait accompagné jusqu'à la croix alors que Pierre l'avait renié, abandonné, tout et tout. Donc il a dû être mal avec le comparatif. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Alors, vous savez comment il s'en est sorti? Eh bien, il a oublié le comparatif. Il a fait comme s'il n'avait pas entendu. Il avait très bien entendu. Mais il oublie une petite partie de la question. C'est plus simple. Et après, il s'agissait de répondre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Bon, il abandonne le comparatif, on le comprend, ça le brûlait, quoi. Alors, on n'aime pas tellement être brûlé, les brûlures. Et alors, il dit, mais moi, est-ce que je l'aime? Ben, s'il l'aimait, ça se serait vu. Quand ça a chauffé, si je l'aimais vraiment, ben ça se serait vu. Donc c'est un petit peu difficile que je réponde oui, je. Alors d'abord, il change le verbe, ça c'est pas mal. Il dit, ben, je t'aime bien quand même. Comme quand si j'aime vraiment quelqu'un, c'est pas du tout pareil que si je dis, je t'aime bien quand même. Il baisse d'un cran, voilà. Il fait exprès de baisser d'un cran, et il n'ose même pas dire... Oui, je t'aime bien quand même. Et alors là, il est extraordinaire. Et il dit, ben, tu sais que je t'aime bien quand même. Et il met la réponse chez Jésus, pas chez lui. Et il arrive à dire un oui minuscule, un tout petit oui. Oui, tu sais que je t'aime un peu quand même. Et les autres, on s'en occupe pas. C'est très beau. Donc c'est une conversation, je vous le dis. Parce que peut-être ça peut être utile pour chacun de nous qu'on laisse Jésus nous poser cette question et vous verrez que la réponse c'est quand même difficile. Et je trouve que c'est un champion dans la réponse. Il a dégringolé trois escaliers, vous voyez. Premièrement, il a abandonné le comparatif. Deuxièmement, il a changé le verbe. Et troisièmement, il n'a même pas osé dire oui, je. Oui, tu sais que je.
T'aimes quand même un peu, quoi.
C'est vrai d'ailleurs. Là, c'était vrai. Et sa réponse, elle est vraie. Elle est vraie. Et je dis ça pour dire, je ne pourrai rien faire si je ne suis pas capable de dire oui à Jésus. Mais je ne suis pas capable de lui répondre oui, vu ce que j'ai fait. Donc il faut que je me débrouille pour arriver à dire oui quand même. Et ce tout petit oui, c'est ça qui sauve Pierre. Et vous savez qu'après, dans les Actes des Apôtres, il est surprenant. Parce qu'il parle avec une force, avec une assurance, avec une audace incroyable. Il leur dit, les Juifs, ce que vous avez fait, c'est lamentable. Ils venaient pour vous sauver, vous l'avez crucifié. Eh ben, vous êtes des lamentables pécheurs, convertissez-vous tous, faites-vous tous baptiser, etc. Et les autres, ils auraient pu lui dire, tu causes bien, mais toi, la semaine dernière, t'étais quand même pas très, 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 quoi. Voilà. Il n'est même pas arrêté par ses péchés, c'est beau ça. Il n'est même pas arrêté par sa médiocrité. Non pas qu'il croit qu'il est un type bien, il sait très bien qui il est. Il a une vive conscience de son péché, et c'est d'autant plus désagréable que tous les autres connaissent son péché, voyez. Heureusement, les autres ne les connaissent pas. Tandis que Pierre, tout le monde le connaît. Ça doit être dur, quand même. Quand les gens savent que vous êtes le chef, et que vous avez trahi Jésus, c'est quand même très embêtant. Eh bien, il est admirable parce que malgré sa faiblesse et malgré ses péchés, la parole peut poursuivre sa course. Donc, ce qui est nécessaire pour vivre mon sacerdoce et être prêtre selon le cœur de Jésus, c'est que je l'aime, ce cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Mais... pour moi, il y a un sens encore plus profond de cette phrase, et c'est ça que j'appelle le génitif objectif, c'est le sacerdoce, c'est l'amour de Jésus qui descend sur le monde. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est être un chrétien, qu'est-ce que c'est être une chrétienne, qu'est-ce que c'est être un prêtre. C'est que grâce à vous, par vous, par ce que vous êtes et par ce que vous faites, c'est l'amour du cœur de Jésus qui déferle sur le monde. Voilà ce que c'est. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pas seulement toi, est-ce que t'aimes Jésus pas assez, médiocrement, mais quand même un peu. Ben voilà, c'est notre pauvre petite histoire. Il faut réussir à dire oui. Oui, je l'aime pas assez, je l'aime lamentablement, je l'aime et je l'ai trahi souvent, mais quand même, je m'excuse, c'est quand même vrai. D'ailleurs, il le sait très bien que je l'aime quand même un peu et que je lui ai donné ma vie et que je veux vraiment le servir. Je suis comme je suis, il me connaît, il m'a pris comme je suis, il m'a demandé d'être son serviteur, alors j'essaye de faire mon boulot. Voilà, c'est comme ça que parle Saint-Pierre, si vous voulez. Et chacun d'entre nous. Je vous raconte une histoire pour vous détendre. Quand je suis dans la sacristie avec les enfants de cœur. Alors, c'est le cardinal qui parle à un enfant de cœur. Alors, l'enfant de cœur, il tremble un peu quand j'ai dit. Alors, mon petit bonhomme, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Nicolas, ça. Est-ce que tu aimes Jésus? Oh, oui, beaucoup. Alors, j'ai dit non, c'est pas ça qu'il faut répondre. Alors, il est un peu assommé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut répondre? Mais il faut répondre pas assez! Ah bien oui, d'accord, maintenant je répondrai ça. Pas assez! Pour l'aimer vraiment et l'aimer plus. Mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est pas toi. Le plus intéressant, c'est pas ce qu'il y a dans ton cœur. Le plus intéressant, c'est pas la personne de Saint-Pierre. C'est les actes des apôtres. C'est que le premier jour, il y a 3000 personnes qui demandent le baptême. C'est qu'à la fin des actes des apôtres, on a évangélisé Chypre, on a évangélisé la Turquie, la Grèce. On s'en fout de Saint-Pierre à la fin des actes des apôtres. On parle même pas de lui d'ailleurs. On parle de lui jusqu'au chapitre 15 et puis après il disparaît dans la mer. Bon, et c'est fini quoi. Et après il y a Saint-Paul. Donc nous, c'est important que nous soyons chrétiens. Mais ce qui est très très important, c'est les gens qui ont besoin d'être aimés. Voilà. Alors ça, c'est une phrase que j'emprunte à une mystique suisse, que peut-être certains d'entre vous connaissent, Adrien von Speyer, et une phrase qui pour moi est écrite en lettres d'or là-haut dans ma tête. Les hommes méritent plus d'amour que le monde ne peut leur en donner. Surtout les pauvres dont il est question dans les Béatitudes. Donc je la répète, les hommes méritent beaucoup plus d'amour que le monde ne peut leur en donner. Le monde bien gouverné peut prendre soin des gens, je suis d'accord, et faire attention aux malades, faire attention aux personnes isolées, et il y a beaucoup de dévouement et beaucoup de décisions qui sont belles, mais en fait c'est vrai ce qu'elle dit, ils ont besoin de plus d'amour que le monde ne peut leur en donner. Et la source de tout amour, en lui j'ai mis tout mon amour, c'est le Christ. C'est la personne du Christ, c'est le corps du Christ, donc c'est vous. Alors vous devez vous fatiguer pour aller donner cet amour partout, partout dans le monde. À quoi ça se reconnaît qu'on aime? À quoi ça se reconnaît la charité? Alors là, je vais vous faire cadeau d'un petit texte de Saint Paul, que bien sûr vous connaissez par cœur, qui est au début de la première épître aux Thessaloniciens. Il parle de la foi, l'espérance et la charité. Et il donne la caractéristique. La foi, vous savez ce que c'est? Si vous avez la foi, vous voulez voir si vous avez la foi, c'est le travail. Parce que comme c'est une vérité de Dieu qui n'arrive pas à rentrer dans une petite tête d'homme, ben on travaille tout le temps. Celui qui ne travaille pas sa foi, eh ben c'est pas vrai, il n'est pas croyant. Ouais. Quand vous dites le credo, ça doit vous brûler les lèvres, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est pas possible d'arriver à dire des choses comme ça, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé de même nature que le Père, et de dire des quantités de phrases qu'on comprend rien à ce qu'on dit, si on ne travaille pas. La caractéristique de la foi, c'est qu'on travaille, on bosse. Le travail de votre foi. Saint Paul dit, ah les Thessaloniciens, je vous admire, parce que vous, vous avez une foi qui travaille. L'espérance, la caractéristique de l'espérance, c'est la ténacité, la fidélité, la constance, la persévérance, ça c'est vrai. On est passé comme ci et comme ça et tout, et puis à la fin de la route, le bon Dieu nous a gardé là, ben dis donc quelle chance quoi. Et on a notre unique espérance en lui, point final. Et on sait qu'au dernier jour, il y aura lui, et qu'on va traverser des quantités de ténèbres, mais la seule lumière, c'est lui, et qu'un jour, cette lumière, même si on la voit pas maintenant, on la verra. Et la caractéristique de la charité? La caractéristique de la charité, c'est la fatigue. C'est qu'on est épuisé. J'ai vu ça souvent avec des jeunes mères de famille. Elles ont 3-4 gamins petits, etc. Le soir, elles me disent, je suis morte. Je suis content. Mais j'ai dit, ça prouve que t'es une bonne maman. C'est-à-dire qu'il y a un amour dont l'enfant va demander tout le temps, à tous les moments, et il est complètement épuisé. Mais j'arrive plus à prier. J'ai dit, t'en fais pas, t'es dispensé de prière pour un certain temps. Quand ils auront grandi, tu te récupéreras. Et pour l'instant, ils te demandent tout jusqu'au dernier souffle, et c'est très bien, et donne tout. Et si t'es épuisé, dans les limites, c'est bien, quoi. Quand après t'es fatigué, je suis content aussi, voilà. Un soir on est vraiment fatigué, on dit, ils m'ont tué, Et c'est vrai d'ailleurs, hein. Mais bon, bah, c'est pas si mal. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait beaucoup d'amour à donner. On a pu le donner, il fallait écouter, il fallait servir, il fallait aller voir, il fallait réécouter encore, il fallait encore refaire signer encore ceci, encore cela, etc., etc. On n'est jamais au bout, de toute façon, il n'y en a jamais assez. La caractéristique de la charité, c'est la fatigue. C'est que on s'est vraiment fatigué pour eux et je pense qu'on en a énormément besoin. Alors, pour terminer, je voudrais montrer à quel point elle est belle, cette figure de l'action sacerdotale de l'Église qui se présente dans tous les coins du monde. Tenez, nous, par exemple, nous sommes un État laïque en France. Et donc, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Bon. Et en 2007, est mort l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre, il est mort à Alfortville. Vous connaissez certainement tous très bien Alfortville, c'est la ville où j'ai été ordonné prêtre, donc moi je l'aime bien. Et quand il a vu qu'il allait mourir à Alfortville et que j'étais devenu l'évêque de Lyon, sa ville natale, il m'a appelé. Il m'a dit, viens dire la messe avec moi à Alfortville, ça te rappellera des souvenirs. Donc je suis allé chez lui, et à 100 mètres de l'église où j'ai été ordonné prêtre, j'ai célébré la messe avec lui, il avait 94 ans. Alors on a parlé beaucoup. Et puis il me dit, c'est toi qui vas faire mon enterrement. Oh, ben j'ai dit, alors là vous rigolez, parce que vous, vous allez avoir des obsèques nationales et tout, avec le président de la République à Notre-Dame de Paris, et on se souviendra même plus qu'il y a un évêque à Lyon. Et ben en fait, quand il est mort, le cardinal 23 m'appelle, et il me dit, ben, il voulait que ce soit toi qui célèbre ses obsèques, mais quand même c'est à Notre-Dame de Paris avec tout le gouvernement, je suis obligé de les faire moi-même. Je dis, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, écoute, c'est toi qui vas faire le sermon, Philippe. Alors bon. Je fais le sermon pour l'abbé Pierre. C'était assez facile, hein, l'évangile d'Emmaüs, ça pouvait aller, quoi. Et puis, j'avance, et il y avait encore le cardinal Lustiger, il était à la retraite, il était à côté de moi, il me dit, bah, c'est drôle, hein. Moi, j'ai été archevêque de Paris pendant 25 ans, et j'ai jamais eu des obsèques nationales. Ça existe jamais. Le dernier, c'était un maréchal de France, le maréchal Juin en 1966, un maréchal de France, il mérite bien ça. Personne, personne, personne. Pourquoi est-ce qu'ils font des obsèques nationales pour un prêtre? Et parce que les Français, c'est une république laïque, bah oui, tout à fait laïque. N'empêche qu'ils ont vu quand même que là, il y avait de l'amour qui était donné à tout le monde, quoi. La révolution de la bonté, vous vous rappelez, de l'hiver 54. Un homme est mort dans le boulevard Sébastopol, mobilisation générale à portée des couvertures à la gare du Nord, à la gare de l'Est. Tous les Français sont arrivés, et il a révolutionné notre pays à cause d'un mort de froid sur le boulevard Sébastopol. Pendant 10 ans, il a été le Français le plus aimé et le plus célèbre. Autrement dit, l'action sacerdotale de l'Église, l'action sacerdotale du Christ, l'amour de Dieu, j'ai tout mis dans la personne de Jésus. Et ben les gens le voient. Ils critiqueront toujours les curés, l'Église et les chrétiens en disant que c'est ringard, dépassé, obsolète, etc. N'empêche qu'ils savent la vérité. Et ben l'année d'après, et ben il y a eu encore des obsèques nationales. Depuis 60 ans, il n'y en avait pas eu, mais il y en a eu en 2007 et en 2008. Et c'était qui? Une bonne sœur. Sœur Emmanuel, on est à laïc toujours, hein. Et sœur Emmanuel, elle n'avait rien fait en France. Pendant 22 ans, elle avait été au Caire, avec les chiffonniers du Caire. Elle avait dormi au milieu des cafards. Je suis allé là-bas voir les endroits et voir celle qui prenait la suite maintenant. La France entière a tiré son chapeau. Et en disant, celle-là, c'est de l'amour pur sucre. C'est l'amour de Dieu qui descend sur terre. Splendide, n'est-ce pas? Donc je vous le dis, parce qu'en fait, faut pas se laisser impressionner par les critiques et tous ces trucs-là. La seule chose qui compte, la seule chose qui reste, la seule chose qui donne un témoignage imparable, c'est la charité de Dieu, l'action sacerdotale, le pardon de Dieu, la grâce du baptême, la miséricorde, l'attention aux pauvres, aux affamés, etc., qui arrive et qui va irriguer la terre, car, comme disait Adrienne, les hommes méritent beaucoup plus d'amour que le monde ne peut leur en donner. L'État français, ben, il était ce qu'il était. Ben, heureusement qu'il y avait l'abbé Pierre en plus, quoi. Parce que l'État, il n'arrivait pas à faire ce qu'il devait faire. Le Caire, eh ben, le Caire, il y avait aussi l'Égypte, etc. Mais, enfin, heureusement qu'il y avait sœur Emmanuel, etc. Alors je termine par une toute petite histoire qui reste gravée au plus profond de ma mémoire et d'une personne dont vous n'entendrez jamais parler dans les journaux et qui est magnifique pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. Donc, 4 ans, j'ai été à Madagascar Et un jour, j'arrive dans l'extrême sud de Madagascar, le pays des Antandrouis, c'est-à-dire c'est le pays des épines là-bas. Ça vous dit un peu le paysage, quoi. Et on arrive dans un village, et il y avait des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Et il y avait des enfants, et alors elles les soignaient. Il y avait des enfants qui jouaient. Quand il y a des enfants, c'est toujours joyeux, de toute façon. Donc il n'y avait rien, et encore un peu moins même. Mais les enfants jouaient, bon. Et la sœur, elle soignait la lèpre et la gale. Donc il y avait des mains horribles, etc. Donc elle refaisait les pansements sur les corps des enfants, etc. C'était une Espagnole. Alors je parle avec elle, et je lui demande d'où elle vient en Espagne, de la région de Tolède. Je lui demande comment elle s'appelle. En fait, elle avait un nom bizarre, quoi. Alors j'ai dit, mais hey, attention, vous êtes de cette famille-là. Alors c'est une famille de grands princes espagnols, etc. Bon. Et alors tout d'un coup, je lui dis, mais comment ça se fait qu'alors que vous pourriez être une vieille marquise douairière avec votre château, vos serviteurs, vos enfants, vos petits-enfants, vous êtes ici dans le coin le plus perdu du monde. Et alors elle me regarde, et elle part d'un extraordinaire éclat de rire. Et elle me dit, mon cher ami, ça, c'est le Seigneur. C'est comme ça qu'il fait. Je vous laisse sur sa parole.